Vous voulez? On va. Juste un instant. Alors, si vous voulez, on va tourner dans l'Évangile de Marc et on va aller au chapitre 15. Notre sœur et notre frère Linda et Sylvain ont lu le texte, c'est-à-dire, et je ne crois pas qu'on ait à le relire. Mais je vais poursuivre un peu le message de la semaine passée, tout en amenant une conclusion avec la croix. Donc, aujourd'hui, ce sont les souffrances et le meurtre de notre grand roi. Vous savez, dans les évangiles, qui nous raconte la passion du Christ. Comme je l'ai lu tantôt, l'emphase n'est pas toujours mise sur les souffrances que Jésus a dû endurer, malgré qu'elles aient été fortes et intenses. Vous savez, les moqueries sont aussi mises en évidence, mais le focus, l'attention est surtout placée sur le côté spirituel et l'agonie psychologique. Tout de même, je crois qu'il serait négligent de ma part si je passerais trop rapidement sur les coups de fouet et les abus physiques que Jésus a endurés. Au verset 15 du chapitre 15, Marc dit ceci, « Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâchèrent Barabbas. » On en a parlé la semaine passée. « Et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. » William Lane, c'est un commentateur, explique en détail ce qu'était la flagellation. La flagellation romaine était une punition terrible. La personne délinquante était dévêtue, attachée à un poteau ou parfois simplement projetée par terre au sol et battue par des membres de la garde jusqu'à ce que la peau se déchire en morceaux et que pende la chair sanglante. L'instrument, le fouet, était une languette de cuir avec des morceaux d'os ou de métal incrustés au cuir et avec des chaînes. Aucun nombre de coups maximum n'était prescrit dans la loi romaine. Et les hommes condamnés à être flagellés perdaient connaissance et certains même mouraient d'avoir reçu tous ces coups. L'historien Josephus rapporte que lui-même a vu certains opposants au régime romain en Galilée. Ces gens-là ont été flagellés jusqu'à ce que leurs entrailles soient visibles. Le procurateur Albinus a fait flageller le prophète Jésus bar Anan jusqu'à ce que ses os soient visibles. Suivant cette pénible et douloureuse flagellation, ils ont appelé toute l'armée à se réunir. Il y était environ 600 soldats autour de Jésus. Et là, comme on a lu tantôt, ils le vêtirent d'une robe pourpre, probablement un vieil habit militaire qui servit pour se moquer de la royauté de Jésus, verset 17. Ils lui firent une couronne d'épines, qui est l'image de la malédiction de Dieu sur l'humanité, qui repose maintenant sur Jésus. Et si vous voulez avoir d'où vient cette malédiction-là, eh bien, vous allez dans Genèse, chapitre 3, versets 17 et 18. Ils se moquent de lui encore de plus belle. Cette fois-ci, on le salue d'une façon dérisoire. Hein, on voit ça au verset 18. Et tout comme les Romains saluent César, de même, ces soldats-là saluent sarcastiquement le roi Jésus. Ils le frappent de nouveau avec un bâton, un sceptre moqueur. Hein, au verset 19, on voit aussi dans Matthieu 27, 28, 29 et 30. Ils continuèrent à cracher sur lui et à l'insulter. Ils se prosternent devant lui, ils l'adorent avec moquerie. Et enfin, lorsqu'ils eurent fini de se moquer de lui, de le frapper, de l'insulter, eh bien, on l'amène pour être crucifié. Complètement seul, humilié, nu et battu à mort, notre Sauveur endure le ridicule, la honte, la douleur aux mains d'hommes pécheurs, aux mains de ceux qu'il est venu sauver. Ou comme les cieux ont dû regarder cela dans l'incrédulité, ça se peut pas que ça arrive. Et même, je crois que les anges ont peut-être pleuré. Le Père a envoyé son Fils bien-aimé pour sauver et racheter une race rebelle. Vois là-bas ce qu'ils ont fait à notre Seigneur. Il y a un beau chant. Hein? Vois là-bas mettre mon Seigneur en croix. Regardons à ce qu'ils ont fait à notre Seigneur. Et n'oublions jamais ce que notre Seigneur a fait pour nous. Parlons maintenant, allons dans Marc 15, à partir du verset 21 jusqu'à 47. C'est le meurtre de notre grand roi. Jésus a été crucifié, Jésus est mort et il fut enseveli pour des pécheurs. Des pécheurs comme toi, comme moi. La crucifixion de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ça n'a pas été un accident. Pas en tout. Ce n'est pas un accident dans l'histoire de l'humanité. C'est un rendez-vous divin, prophétisé dans les Écritures et peut-être juste écrire Ésaïe 53, 10, qui dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » La crucifixion, les souffrances de Jésus ont satisfait la colère de Dieu qui était contre toi, contre moi. Et ce fut aussi l'accomplissement d'un bon nombre de prophéties, anticipant une journée tragique, mais en même temps glorieuse. Jésus a été crucifié pour en sauver d'autres, pas pour se sauver lui-même. Vous savez, la crucifixion était la plus cruelle, la plus douloureuse, la plus humiliante forme de peine capitale du monde ancien. Et Rome avait perfectionné, imaginez-vous, la technique afin de maximiser les souffrances. L'humiliation d'une telle mort était tellement grande que l'orateur romain Cicéro a dit ceci. « Juste le mot « croix » devrait être enlevé non seulement concernant la personne d'un citoyen romain, mais de sa pensée, de ses yeux, de ses oreilles. La seule mention de ce mot n'est pas méritée de la part d'un citoyen romain ou d'un homme libre. Vous savez, il y a plus de 2000 ans d'histoire depuis la mort du Christ. L'Église a plus de 2000 ans d'histoire. Et malheureusement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a domestiqué et assaini la croix pour plaire aux personnes modernes. Il y a même des églises qu'on ne mentionne même pas le mot croix. L'horreur de la croix n'est plus là. Dans les évangiles, bien, il y a peu de détails. Pourquoi? Bien, les gens dans ce temps-là étaient habitués de voir ce genre d'horreur. Ça se passait régulièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas la souffrance qui importait, mais celui qui souffre. Celui qui souffrait, le Fils de Dieu, qui prend sur lui les péchés du monde. Vous savez ce que Jean-Baptiste a dit, hein, au début de l'Évangile de Jean? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Maintenant, quelques détails, excusez-moi, là, j'ai chaud, c'est sec. Notre grand roi a été crucifié dénudé. Marc 15, 21-24. Normalement, un homme condamné à la crucifixion portait sa propre croix et le poids de cette croix-là pouvait atteindre parfois 100 livres et plus. Au début de son parcours vers le mont Golgotha, Jésus a porté sa croix. On peut lire ça dans Jean 19, verset 17. Et il tomba, donc il avait besoin d'aide. Et là, un homme du nom de Simon de Cyrène, d'Afrique du Nord, aida Jésus à porter sa croix. Possiblement que cet homme-là était un noir, vu qu'il venait de l'Afrique du Nord. Et on menait ensuite Jésus à un endroit qui s'appelait Golgotha, appelé aussi lieu du crâne. Cette place-là était située à l'extérieur des murs de la ville, tout au long de la voie publique. Les Romains voulaient faire voir comment eux, ils traitaient les criminels. Et ils offrirent ensuite à boire à Jésus du vin mélangé avec de la myrrhe. On voit ça dans Marc 15, verset 25. Il y a le psaume 69, verset 21, qui dit la même chose. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Ça, c'était un genre de drogue primitive pour engourdir la douleur. Et là, Jésus a refusé de boire ce mélange-là parce qu'il voulait faire face à l'agonie avec le plein contrôle de ses facultés mentales. Il ne voulait pas être drogué. Il ne voulait pas être sous. On le déshabille, puis on tire au sort ses vêtements. Psaume 22, verset 18. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Voyez-vous, ces prophéties-là qui étaient toutes dans l'Ancien Testament se réalisent là, comme j'ai dit tantôt. Il est possible que notre Seigneur soit mort sur la croix complètement dénudé ou seulement avec son sous-vêtement autour de sa taille. Peu importe. Il a été humilié. C'est ça qui a frappé. Jean Calvin explique ceci du point de vue théologique. Il dit, « Les évangélistes nous peignent l'image du Fils de Dieu sur la croix, ne portant aucun vêtement, afin que nous puissions connaître la richesse gagnée pour nous par cette nudité, car elle nous vêtira aux yeux de Dieu. » Parlait bien Jean Calvin. C'est dur à lire parfois ce qu'il a écrit, mais parlait bien. Dieu a permis que son Fils soit dépouillé de ses vêtements, afin qu'avec les anges, nous puissions librement paraître portant un habit de justice et être dans l'abondance pour toutes. Bonne chose. Notre grand roi, ensuite, a été crucifié avec des pécheurs. Versets 25 à 27. Jésus fut crucifié à la troisième heure, ce qui représente environ vers 9 heures du matin. Dans un acte de moquerie supplémentaire, ils ont cloué une plaque au-dessus de sa tête qui disait « Le roi des Juifs ». Et de chaque côté, on crucifia deux criminels, un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et encore là, c'est une prédiction de Ésaïe 53 au verset 12 qui dit « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le bulletin avec le butin, c'est-à-dire avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Ironiquement, Jacques et Jean, les deux apôtres, avait demandé à être un à sa droite, l'autre à sa gauche, lorsqu'il serait dans sa gloire. Hein? Regardez-vous, on voit ça dans Marc 10, verset 37. Hein? « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Et Jésus leur dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils demandaient. Et là, ce jour-là, voici l'heure où le Père va glorifier le Fils et le Fils va glorifier le Père. Jean 17, verset 1. Je pense pas, du moins je ne crois pas, que c'est le genre de gloire que Jacques et Jean avaient en tête cette journée-là, lorsqu'ils ont demandé à Jésus d'être assis un à sa droite, l'autre à sa gauche. Je ne pensais pas pantoute à ce que s'est passé ce vendredi. Jean 17, 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Notre grand roi a été crucifié, ridiculisé. Versets 29 et 30 de Marc 15. Jésus est encore une fois un sujet de moquerie. Des abus verbaux. Les passants, ceux qui passent devant, ainsi que ceux qui sont là pour voir le spectacle, lui lancent continuellement des insultes. Et devant lui, il hoche la tête avec sarcasme, moquerie. On le ridiculise et on répète cette phrase que Jésus avait déjà dit, « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours. » Mais avant d'entreprendre celle de rétablir ce temple, qui est la résurrection, évidemment, en trois jours, Jésus devait considérer autre chose. Dans l'immédiat, devait mourir. On lui crie, « Sauve-toi toi-même, descends de ta croix. » Cette tentation-là, frères et sœurs, de descendre de la croix, c'est la même que Satan lui a envoyée dans le désert. Rappelez dans Matthieu 4, 11, lorsque Jésus a été tenté trois fois. Même tentation, « Descends de ta croix. » Il a eu à faire face, le Seigneur Jésus a eu à faire face à cette même tentation-là, juste quelques heures auparavant, dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il a demandé à son Père d'éloigner la coupe de souffrance. Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, jusqu'au dernier moment, le diable va tenter de persuader Jésus de rejeter cette croix-là. Satan ne voulait pas de Jésus sur la croix. Il savait que pour lui, c'était la ruine, la fin. Mais pour nous, Jésus est notre rédemption. C'est notre sauveur. Imaginez Jésus descendre de sa croix. Oh, ça aurait été tout un spectacle. Mais on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas ici. Et je conclue en disant ceci. Jésus, notre grand roi, a été crucifié pour sauver d'autres. Et versets 31 et 32. Les leaders religieux n'ont pas été en mesure de résister, de citer cette phrase-là à notre grand roi. Il en a sauvé d'autres. Il ne peut se sauver lui-même. On l'a défié de descendre de la croix pour enfin dire, si tu descends de ta croix, bien, on va croire en toi. Quelle ironie. On dirait aujourd'hui, quel joke. Et parce que notre Seigneur voulait en sauver d'autres, il ne fallait pas qu'il descende de sa croix. Puis, il ne pouvait pas, même s'il aurait pu, se sauver lui-même. Ce n'est pas pour ça qu'il était venu. Il se sauver lui-même, il ne l'a pas fait. Non. Ces hommes disaient qu'ils allaient croire en Jésus seulement s'il descendrait de sa croix. Mais nous, nous croyons en lui précisément parce qu'il est demeuré sur la croix. Les deux voleurs crucifiés avec Jésus, eux aussi l'ont insulté. On voit ça au verset 32, hein, que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Cependant, le cœur de l'un d'eux va être transformé avant même la fin de la journée. Et c'est ma prière pour aujourd'hui, si ce matin, cet après-midi, tu n'es pas sauvé. Que ton cœur puisse être transformé avant la fin de cette journée-ci. Que tu puisses regarder à cette croix, voir Jésus qui t'aime inconditionnellement. Il a donné sa vie pour toi. Cet homme-là crucifié à côté de Jésus, il a vu quelque chose qui l'a changé, qui l'a remué. Un instant avant, il l'insultait et là, maintenant, il est prêt à lui faire confiance. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses, lui faire confiance. Comme un petit bébé ou un enfant qui va être sur le bord de la table et qui va sauter dans tes bras si tu lui dis « saute ». Je prends souvent cet exemple-là, puis il n'y a rien de plus innocent qu'un enfant. Pose-toi pas de questions. Saute dans les bras de ton sauveur. Tu ne seras pas déçu. Cet homme-là n'a pas été déçu parce que un instant après sa mort, il était avec Jésus immédiatement au paradis. Merci. N'oublions jamais ceci. Aucun pécheur va être déçu s'il regarde à la croix et s'il croit que Jésus est notre grand roi, notre sauveur. Il n'est jamais, jamais trop tard. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci pour ton sacrifice parfait. Merci pour l'amour que tu nous as manifesté. Seigneur, sauve. Sauve-nous. ceux qui sont ici et qui ne te connaissent pas encore personnellement. Qu'ils puissent te faire confiance et sauter dans tes bras, Père. Au nom de Jésus, on te prie. Amen.